France Info. France Info, les informés, Pierre Neveu.
Bonsoir les informés de France Info, c'est votre rendez-vous de débat d'idées le dimanche soir sur France Info, à la radio, à la télévision, canal 27 de la TNT, sur vos tablettes, ordinateurs, franceinfo.fr. Les informés de ce dimanche soir, Gérard Leclerc, bonsoir Gérard.
Bonsoir.
Éditorialiste politique à CNews et pour la revue et le site Oui Demain, Alban Micosi. Bonsoir Alban.
Bonsoir Pierre.
Rédacteur en chef adjoint au service international de France 2. Nous retrouvons également avec plaisir François Hernenwein. Bonsoir François.
Bonsoir.
Rédacteur en chef à La Croix. Et Virginie Leguet. Bonsoir Virginie.
Bonsoir.
Chef adjointe du service politique de Paris Match. Alors au sommaire de ces informés, l'imprévisible Monsieur Trump, le président américain, ne connaît qu'une méthode, le rapport de force. On reviendra également sur cette note adressée à l'Élysée par des économistes marcheurs. Et puis vous n'y échapperez pas sur ce plateau. Nous délaisserons quelques instants la politique pour parler football, puisque jeudi commence la Coupe du Monde, le football pour exacter le nationalisme et les populismes. À la une de l'Express, dans les kiosques cette semaine, une photo de Donald Trump avec ce titre « Mister No Limit ». Le président américain qui a distribué à l'occasion du G7 du Canada des bons points à ses partenaires. Et puis il a finalement décidé de renverser la table. Il était dans son avion en direction de Singapour et il a décidé de retirer sa signature du communiqué final, un camouflet de plus. Alors, avant de parler du fond, on va parler de la forme. Est-ce que cela sert encore à quelque chose de procéder à de longues poignées de main avec le président américain, de longues accolades, si à la fin, le président américain n'en fait qu'à sa tête, Gérard Leclerc?
Oui, c'est vrai que c'est... Je crois que c'est quand même du jamais vu. C'est abracadabrantesque ce qu'on voit là. Hein. C'est-à-dire les sept plus grandes puissances du monde qui se réunissent, qui discutent pendant deux jours, qui tombent finalement d'accord, ce qui est très compliqué, en plus d'une situation qu'on, là aussi on n'a jamais vu, à 6-1, et le 1 étant la première puissance du monde. Et quelques heures après, le président américain s'en va avant... Enfin, vraiment, oui, avant la fin, et il revient finalement, il dit bah non, tout ce qui a été étudié. Tout ça est absolument invraisemblable. C'est quand même très très inquiétant.
Ça sert à quelque chose de ces images d'accolades,
bien évidemment,
à la Tour Eiffel.
Bien évidemment que normalement les rencontres internationales, bien sûr que ça sert à quelque chose. Bien sûr que c'est utile et qu'il faut que les chefs d'État et de gouvernement se rencontrent, discutent, etc. Il y a suffisamment de problèmes.
Je vois Alban Micosi qui est en train de faire non de la
tête. Moi, je pense que ça devrait être d'accord avec Gérard.
Je pense que le G7 ne sert plus à rien.
Mais ça devrait,
voilà, c'est
ça
l'exemple
devrait.
Même cas, d'un grave. Fiasco absolu, un fiasco diplomatique.
Oui,
alors,
il
faut se rappeler, il faut en finir avec ce format du G7. Ça ne sert plus à rien. Il faut savoir pourquoi il a été créé. Il avait été créé en 1975 sous l'impulsion de Valéry Giscard d'Estaing pour essayer de résoudre les problèmes économiques entre gens civilisés qui représentaient le camp occidental.
Là, c'est plus le cas,
c'est pour ça qu'il n'y a pas les Chinois, par exemple, à l'intérieur. Bon, aujourd'hui, il y a des gens civilisés. Je ne doute pas que tout le monde soit encore très civilisé, mais il y avait un point qui était l'objet de cette discussion, c'était ces taxes sur le commerce international, la réciprocité, non-réciprocité. Bilan, on arrive laborieusement à un communiqué commun, je ne parle même pas d'accord, à un communiqué commun qui est pulvérisé par Donald Trump d'un simple tweet. Et puis, on devait parler d'environnement, on devait parler de la lutte contre les plastiques. Trump a dit, alors ça, c'est même pas la peine d'en parler, c'est non.
Mais non, on en a parlé, c'est lui qui a refusé.
Voilà, mais le bilan, c'est que ça ne sert à rien. Le G7 ne sert à rien. Le G20 peut-être, mais le G7 ne sert plus à rien.
Sur la forme, avant de parler du fond, Virginie Leguet, il y a eu cette déclaration aussi de Donald Trump à l'égard de son voisin canadien, Justin Trudeau. Il dit, de personnes malhonnêtes et faibles, les gestes, les mots sont particulièrement blessants et durs. Autrefois, je sais pas, on aurait sorti les arbalètes, on aurait réglé ça dans un duel. Il le traite de malhonnête et faible.
Mais et si tout ça n'était pas un coup monté prévu d'avance, Donald Trump a peut-être fait semblant de participer à ce
communiquer, sachant très bien qu'il allait se dédire. Il a à peine attendu d'être dans l'avion. Il a pris pour prétexte les propos de Justin Trudeau et il s'en est retiré. Moi, je me demande si le coup pour Donald Trump n'est pas, un, de pulvériser l'Europe, enfin, ce qu'il en reste, et deux, surtout, de montrer à Kim Jong-un que, oui, bah voilà, tu vas voir ce que tu vas voir. Je me laisse pas faire comme ça, je viens de voir, mais ça va pas se passer si facilement parce que je suis un dur. Finalement, il joue le coup d'après, mais il a pas joué le coup d'avant. Le coup d'avant, pour lui, il était déjà joué, il était déjà fichu.
François Annenwein.
Mais il faut arrêter de croire que Donald Trump est imprévisible.
Oui.
Ce qu'il met en œuvre là, c'est son projet, sa vision du monde. Ce qui fonde la politique de Donald Trump et marginalement aussi la politique des Britanniques avec le Brexit, c'est une position face à la solidarité internationale. Nous nous sortons du jeu. Nous faisons notre petite cuisine dans notre coin en espérant nous sauver nous-mêmes. Mais cette politique est absurde. C'est une stratégie égoïste qui combat la construction de plusieurs décennies pour avoir une communauté internationale qui discute des problèmes et essaye de les régler. Or, la proposition, l'attitude de Donald Trump est parfaitement antagonique avec cette intention et il en tire les bénéfices en racontant qu'il sert les intérêts des Américains. On verra à plus long terme si cette politique est payante pour les États-Unis, ce que je ne crois pas aujourd'hui. L'économie américaine montre des signes de force, mais aussi des signes de faiblesse. Donc c'est une politique extrêmement dangereuse pour le monde et pour les États-Unis.
Elle est payante pour son électorat, cette politique.
Mais oui, mais
son électorat applaudit dès demain. Son électorat applaudit dès demain. C'est ce qu'il attendait.
Ne dévoilez pas déjà tout l'objet de ce débat. Gérard Leclerc, j'ai noté dans l'Express cette petite phrase d'un ancien conseiller de George Walker Bush, président des États-Unis. Trump, c'est Tony Soprano, le parrain de la mafia dans la série télévisée Les Sopranos. C'est ça? C'est un rapport de force.
C'est un peu ce qui est inquiétant dans le monde actuel. C'est que vous avez, Trump ne joue que sur la force, sur les rapports de force. D'ailleurs, comme Poutine, comme Erdogan, comme etc. Vous avez de plus en plus de ce qui devient franchement inquiétant. Oui, surtout quand c'est les États-Unis, parce que c'est quand même.
C'est pas une surprise.
Oui. C'est pas une surprise.
Il provoque la rupture constamment depuis qu'il est élu.
On a quand même jamais vu ça de la part des États-Unis. Ah. Sinon, peut-être juste avant les années 30 où il y avait eu le même phénomène de repli et ça terminait par la crise.
Et on en reparlera.
Eh bien, exactement, Alban Mikosi, vous n'êtes pas d'accord. François Annenwein, on va vous entendre également. Et puis, on va entendre la réaction à la mi-journée sur France 3 de l'ancien président de la République, François Hollande. À 20h10 sur France Info, l'essentiel de l'info, c'est avec vous, Léo Téchère.
Les raffineries et dépôts de carburant bloqués ce soir en France. Les agriculteurs dénoncent l'importation d'huile de palme qui, contrairement à leur production, n'est elle pas soumise au respect de normes environnementales. L'huile de palme qui coûte en plus moins cher que le tournesol ou le colza français pour la fabrication de biocarburants. 14 sites stratégiques seront donc occupés pendant 3 jours reconductibles. Des perturbations sur les routes ce soir en Ille-et-Vilaine, département placé en vigilance orange aux inondations. Des dégradations relevées sur la nationale 157 entre Laval et Rennes. Attention aux orages ailleurs en France. Alerte orange de la Picardie jusqu'aux Pyrénées en passant donc par la Normandie, l'Île-de-France, le Centre et le Limousin. 30 départements concernés par cette alerte. Déjà un test pour le nouveau gouvernement italien. Élection municipale dans 760 villes et 2 arrondissements de Rome. Près de 7 millions d'Italiens appelés aux urnes jusqu'à 23h ce soir. Et le regard se tourne notamment vers Sienne, Pise ou encore Brescia où les maires sortants sont tous de centre-gauche et contestés par le nouveau gouvernement populiste. La Suisse n'accueillera pas les Jeux Olympiques d'hiver en 2026. Trop cher, les habitants du canton du Valais rejettent la candidature de Sion. Le non l'emporte à 54% dans ce référendum. Et puis, l'équipe de France est arrivée en Russie. Les Bleus ont atterri à Moscou un peu avant 19h heure française. Dernière ligne droite maintenant avant le début du mondial samedi contre l'Australie.
France Info. Les informés, Pierre Neveu.
La coopération internationale ne peut dépendre de la colère ou de petits mots, déclarations de l'Élysée aujourd'hui, après cette rupture au sommet du G7 au Canada, rupture de Donald Trump sur l'accord final. On va vous entendre, Alban Mikosi, vous avez demandé la parole, mais avant ça, je voudrais vous faire écouter ce que disait à la mi-journée sur l'antenne de France 3 dans l'émission Dimanche en politique, l'ancien président de la République, François Hollande, à propos justement du locataire de la Maison-Blanche.
Ce qui est plus grave, c'est ce que vient de faire Donald Trump comme élément de sa diplomatie, de son comportement. Il ne respecte rien, Donald Trump. Ni les formes, ni les accords, pas davantage sa parole. Il met gravement en cause ce qu'était une institution, le G7. Il le fait à un moment où, en Chine, la Russie, Vladimir Poutine, le président chinois et l'Iran, se réunissent ensemble et font en sorte d'établir une déclaration finale. Donc c'est un affaiblissement considérable pour les sociétés démocratiques. C'est un affaiblissement considérable par rapport à ce qu'on appelait l'Occident. Et c'est un affaiblissement qui a des conséquences économiques parce que le protectionnisme de Trump aura également des effets.
L'ancien chef de l'État dit Donald Trump ne respecte rien et personne, visiblement. Et puis dans la foulée, il y a Vladimir Poutine qui, avec malice, rappelle que le pouvoir d'achat de plusieurs pays comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde et d'autres pays de l'ex-Union soviétique, eh bien, ça représente beaucoup plus que le G7.
Oui, mais finalement, François Hollande a l'air de partager ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut supprimer le G7.
Il ne sert plus à rien.
Il ne le dit pas, mais ce qu'il dit profondément, c'est qu'on est arrivé à un échec. On est arrivé à un échec total avec ce G7. Effectivement, un échec d'autant plus patent que pendant ce temps-là, la Russie, la Chine arrivent à quelque chose. Mais oui, Donald Trump, il s'en fiche complètement que de fragiliser l'Union européenne.
Au contraire, il s'en réjouit.
Mais absolument. Ça n'a donc cette réunion du club occidental, plus d'une seule voix, n'a plus vraiment de sens.
François Annenweit,
c'est mais Alban est apparemment un tenant de la destruction créatrice, c'est-à-dire voilà. Il nous explique que ce qui ne marche pas, faut absolument le détruire. Ça a un début de cohérence, ce raisonnement. Mais ceux qui s'emploient à détruire ce qui existe, les instruments de régulation, doivent commencer à indiquer par quoi les remplacer. Et à ce moment-là, si on considère que le G7 fonctionne mal, il faut mettre en place les instruments qui permettent à la négociation internationale de s'organiser.
C'est le G20
Oui, mais
c'est
par
le
exemple,
G20 qui est le seul lieu aujourd'hui
où...
Le
fond du raisonnement... C'est encore une fois comment organiser la coopération internationale. Et je pense qu'on peut être critique pour un certain nombre d'institutions et ne pas se réjouir des coups de boutoir.
Non, mais je suis provocateur.
Donald
Ce que
Trump.
Je veux dire par là, c'est que le camp occidental aujourd'hui, il n'existe plus. Donald Trump l'a pulvérisé et le
il
G7
pas
au départ.
Il a pas eu beaucoup de mal à le faire d'ailleurs.
Bon, vous avez raison.
On n'a pas entendu Gérard Leclerc.
C'est
pas seulement
le
problème, c'est pas le G7. Moi, je veux bien qu'on change de mode d'organisation, etc. C'est pas seulement c'est l'ensemble de la coopération internationale qu'il met en cause. Quand il renonce au traité à la COP de Paris contre le réchauffement climatique, il est seul là aussi contre quasiment le monde entier. Sur l'accord nucléaire, il déchire le truc contre l'avis de tous les autres pays qui ont signé cet accord. C'est ça qui est grave. C'est pas du tout une histoire du G7. Moi, je veux bien qu'on passe du G7 au G8, à ce que vous voulez.
Au G6, pour l'instant.
Au G6. L'important, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble à une coopération internationale plutôt que des épreuves de force qui sont extrêmement dangereuses.
Moi, je pense qu'il ne fait que mettre à jour la fragilité de ce que vous appelez, la coopération internationale.
Oui, mais c'est facile de faire ça. Hein.
Le problème,
c'est
qu'on ne peut pas passer son temps à observer le match. Il faut entrer dans le débat en mettant en avant un certain nombre de principes et pas mesurer l'habileté de tel ou tel joueur ou sa violence de jeu, mais poser la question où ça nous conduit cette politique. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est dans un monde relativement instable auquel à cette instabilité, Donald Trump a largement contribué. Oui. Il faut aujourd'hui rebâtir les bases du
François,
dialogue.
François, qu'on soit clair, je ne me réjouissais pas de l'explosion du camp occidental. Ce que je veux vous dire par là, c'est que même au Canada, chaque pays européen a tiré dans son sens. Les Britanniques se sont bien, comme d'habitude, contentés de jouer leur propre rôle à mi-chemin. Les Allemands ont essayé de négocier à part un accord sur l'automobile. L'Italien, il est tout content parce qu'il était bien habillé, il n'a pas dit de conneries.
Non, mais certes qu'à l'arrivée, il y avait quand même 6 contre 1. On peut dire tout ce qu'on veut. Bien évidemment que les pays défendent.
Il y a quelque chose de formidable dans ces raisonnements. C'est... Les provocations de Donald Trump ont au moins un effet positif. Ouais. Elles contribuent à souder les Européens. J'exclus
même
un peu.
J'en suis même pas sûr.
J'exclus les Italiens qui ont une partie.
Et les Anglais qui jouent leur propre.
D'accord, mais les Anglais sont Européens encore pour quelques mois. La question centrale aujourd'hui, c'est entre la France et l'Allemagne. Est-ce que là, s'organisera un pôle de résistance en Europe au délire de Donald Trump.
Je vais vous faire écouter une réaction du maire de Meaux, l'ancien patron de l'UMP, Jean-François Copé. Il était l'invité de l'émission politique d'Europe 1 et de CNews ce matin. Eh bien, il dit tout simplement aux Européens, aux Occidentaux, bienvenue dans la réelle politique.
Qui fait ce pourquoi il a été élu. Dans ses promesses, il y avait en clair, je vais torpiller, 25 ou 30 ans d'accords commerciaux avec l'Amérique du Nord, Canada, et 70 ans de commerce transatlantique. Bah, c'est ce qu'il fait, voilà. Et puis pour le même prix, après s'être insulté avec Poutine, bah, il se réconcilie avec Poutine. Ça s'appelle quoi? Bah, ça s'appelle la réelle politique.
Virginie Le Guay, voilà, vous nous le disiez tout à l'heure, il fait ce pourquoi il a été
élu. Il fait ce pourquoi il a été élu et ce que ses électeurs attendent de lui. Mais moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit François. François, vous parlez de la coopération internationale comme d'une chose extrêmement solide et cohérente. Ce n'est pas le cas depuis des années. Et Donald Trump n'a pas grand mal à mettre tout ça, j'allais dire, à mettre les fragilités, les faiblesses de cette fameuse coopération internationale à jour. Il n'a vraiment aucune difficulté. D'ailleurs, on a bien vu quand il a commencé à dire « oui, on va voir pour les taxes d'importation ». Il ne s'est rien passé, il y a eu des petits cris d'orfraie.
Excusez-moi, je ne suis pas du tout
d'accord. Attendez, je vais jusqu'au bout, si vous me permettez, Gérard.
Il y a eu
des petits cris d'orfraie des pays européens, mais il ne s'est absolument rien passé. Et il n'a aucune difficulté à faire ce qu'il fait. Il ne se heurte pas à une citadelle vraiment très solide.
J'arbitre la rencontre, Gérard Leclerc.
Donc c'est facile.
Non, mais c'est évident qu'il y a toujours des égoïsmes nationaux, des internationaux, etc. Ça n'empêche que sur la COP21, il est parti, il est le seul à être parti. Sur l'accord nucléaire iranien, il est le seul pour l'instant à être parti. Et sur les taxes sur l'acier et l'aluminium, je suis désolé, mais pour l'instant, l'Europe fait à peu près bloc et menace de mesures en l'autre sens.
Oui, lui donner complètement tort. Pensez, Gérard, une voiture américaine, elle est taxée en Europe à 10,5%.
Exactement.
Une voiture européenne est taxée aux États-Unis 2,5%. Bon, Donald Trump, il dit, qu'est-ce qui justifie ce différentiel de 8%? Et là, vous avez raison.
Donald Trump a raison.
Que Donald Trump a raison. Voilà, je suis en train de vous expliquer qu'il défend des positions qui, pour son électorat, sont cohérentes.
Apparaissent pleines de non-sens.
Je pense qu'on peut mettre les plaideurs d'accord autour de cette simple idée d'un point de vue d'Européen. Il est temps que s'élaborent en Europe les instruments d'une résistance.
Nous sommes d'accord là-dessus.
On est tout à fait d'accord.
Vous savez qu'on va poursuivre ce débat, continuer à parler de Donald Trump, mais Donald Trump qui est à Singapour et qui va rencontrer Kim Jong-un dans les prochaines heures, dans les prochains jours, d'ici mardi. Les informés de France Info, la suite dans un instant. Avant cela, à 20h20, l'essentiel de l'info, Léo Téchère.
La foudre frappe à nouveau la France ce soir. 30 départements en vigilance orange aux orages. De la Picardie jusqu'aux Pyrénées, en passant par la Normandie, l'Île-de-France, le Centre et le Limousin. Le département de l'Ille-et-Vilaine est lui en alerte orange aux inondations. Et cela provoque notamment des perturbations sur la route entre Rennes et Laval. Le porte-parole des ascenseurs Schindler en France sort du silence après la mort d'un petit garçon de 5 ans dans un centre commercial de la région parisienne. La dernière maintenance n'avait pas révélé de défaut. Selon lui, les documents de sécurité qui sont au cœur de l'enquête menée par un juge d'instruction. Plusieurs salariés de Vélib licenciés pour avoir fait grève, une grève sans préavis et donc illicite selon le tribunal de grande instance de Paris. Les syndicats dénoncent ce soir une faillite sociale en plus de la faillite industrielle de Smovengo, le nouveau gestionnaire des vélos en libre service de la capitale et qui est très en retard sur son calendrier de déploiement. La démocratie part en fumée en Irak, un incendie ravage le plus grand dépôt de bulletins de vote du pays, et ce alors qu'un recomptage devait bientôt commencer un mois après des législatives entachées de soupçons de fraude. Et puis, un 11e titre à Roland-Garros, c'est un record pour Rafael Nadal. Le numéro 1 mondial s'impose en 3-7 contre l'Autrichien Dominic Thiem. 6-4, 6-3, 6-2, 11 coupes des mousquetaires remportées par l'Espagnol en autant de finales à Paris.
France Info. Les informés, Pierre Neveu.
Dans ces informés de France Info, on continue à parler de Donald Trump, de ses rapports de force avec les Européens, avec les Canadiens et aussi avec le Nord-Coréen Kim Jong-un. Donald Trump est arrivé à Singapour, le dictateur nord-coréen également, pour négocier un accord de dénucléarisation de la péninsule coréenne. François Hernenwein, l'un comme l'autre, l'Américain comme le Nord-Coréen. Ils ont besoin de sortir vainqueurs de ce bras de fer. Que va-t-il se passer dans les prochaines heures ?
Il faudra voir ce qu'ils se disent. Simplement,
est-ce qu'on peut attendre quelque chose ?
Ben oui, je pense qu'on peut attendre quelque chose. Il y a notamment la perspective d'un armistice entre les Corées, qui est toujours pas signé depuis la guerre de 1950. Donc là, il y a un vrai sujet. Mais ça, et incontestablement, soyons positifs, si on arrive à ce résultat, ça sera déjà un premier succès pour Donald Trump. Le point faible des discussions qui s'ouvrent, me semble-t-il, c'est le rêve de Donald Trump de penser que la Corée du Nord va renoncer à l'arme nucléaire parce que c'est le rêve de Donald Trump et parce que c'est nécessaire pour dénucléariser la péninsule. Or, je ne pense pas, à travers l'histoire, on n'a jamais vu un pays posséder la bombe atomique ou, sur le point de l'avoir, renoncer à cet armement, même au prix d'avantages économiques, puisque le chantage classique de la Corée du Nord était « je m'arme, vous m'aidez et je baisse un peu le niveau de mon armement et je recommence année après année ». Cette logique-là, maintenant, au point où on en est, au degré de sophistication nucléaire où est arrivée la Corée du Nord, ça m'étonnerait que demain, la Corée du Nord dise « ben non, je renonce ».
Alban Mikozy, ces deux super grands n'ont pas l'intention de renoncer à leur statut et à leur force, qui est l'arme nucléaire.
Non, mais il y a deux points très justes dans ce que dit François. Il y a deux objets de discussion. Le premier, c'est la paix, et on va dire les signaux de paix, effectivement, cet armistice qui reste en l'air depuis 1953. Pourquoi pas, on peut aller, imaginons qu'ils s'entendent, on peut arriver jusqu'à l'hypothèse de bureau de liaison américain en Corée du Nord et coréen aux États-Unis. Pourquoi pas, premier pas vers une ambassade un jour. Pourquoi pas. Bon, ça, c'est le symbolique. Ensuite, ça pourrait être un succès. Après, il y a la dimension...
On peut organiser aussi un match de tennis de table.
Ils peuvent organiser n'importe quoi qui fasse symbole.
Ça fait référence aux États-Unis et avec la Chine.
Aussi. N'importe quoi qui fasse symbole. Ouais. En revanche, sur la dénucléarisation, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce que, effectivement, je partage tout à fait l'analyse de François, il y a eu cette espèce de chantage sur lequel s'est construit l'économie nord-coréenne et l'aide internationale. Deuxièmement, il y a ce sentiment très fort chez les Nord-Coréens que c'est l'assurance-vie du régime. La bombe nucléaire, et que s'ils s'en séparent, eh ben, ils auront le même sort que les Kadhafi en Libye. Donc, pour ça, on peut penser qu'ils ne négocieront pas beaucoup là-dessus, ou alors, ils vont soulever, et c'est ce que disent les télégrammes diplomatiques, un point qui va vraiment gêner Donald Trump, c'est de dire, ok, alors démilitarisation totale, ça veut dire vos 29 000 soldats américains, ils quittent la Corée du Sud tout de suite.
Et là, le Japon n'est pas d'accord non plus. Gérard Leclerc et Virginie Loguet, finalement, ce qui vient de se passer au Canada, ce qui va se passer à Singapour, tout ça, c'est un message qui est destiné, eh bien, à l'électorat américain, la grandeur de l'Amérique, America First, avec un patron, parce qu'il y a des élections cet automne.
Oui, c'est évident pour le G7. Bien évidemment, ce que fait Donald Trump, il le fait pour son électorat.
Mais aussi pour ce qui se passe, ce qui va se passer cette semaine.
Sur la Corée, c'est vrai qu'il y aura, si ça se termine bien, toute cette affaire, si effectivement il y a un accord, etc., ce sera psychologiquement, il aura obtenu quelque chose. Mais je partage totalement tout ce qui a été dit tout à l'heure sur le... Moi, je suis extrêmement sceptique, j'ai du mal, je ne vois pas la Corée renonçant complètement, définitivement à l'arme nucléaire. Ça me paraît, enfin, surtout qu'ils sont tellement obsédés justement par la défense, ils ont vraiment le sentiment d'être un pays tout seul face au reste du monde, etc. Il y a une espèce de fantasme vis-à-vis de la Corée du Sud, etc. Je ne les vois pas renoncer au nucléaire. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir à l'arrivée ? Est-ce que vraiment, parce que finalement c'est ça le plus important. Le reste, c'est très bien que les relations se normalisent un peu avec la Corée du Sud, tout ça est formidable. Enfin, le vrai problème, c'est quand même le danger nucléaire de la Corée du Nord. Et là, je doute qu'il y ait un accord.
Virginie Huguet.
Il n'y aura peut-être pas d'accord, mais peut-être qu'ils donneront, comme ils font toujours d'ailleurs, quelques signes de bonne volonté qui seront de façade et tout le monde le saura très bien. Mais moi, je pense que ce que vous dites, qui serait que de l'ordre du symbole, qui serait le signe d'une régularisation des deux pays, de la relation des deux pays, sera bien plus qu'un symbole. Ça sera quelque chose de tout à fait historique que tous les deux présenteront comme quelque chose d'historique. Donc ça effacera le peu de gains qu'il y aura peut-être sur la dénucléarisation de la Corée. L'opinion internationale ne retiendra que ça, vous verrez.
L'hypothèse haute, c'est une détente, et ça, c'est une bonne nouvelle.
Bien sûr.
Mais je ne pense pas à ce qu'on s'est dit à l'instant. Je ne pense pas qu'il faut espérer que demain la Corée du Nord déclare « je renonce à l'arme nucléaire », etc. Il y a un petit sas quand même de décompression possible, c'est qu'elle accepte d'en discuter plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent, et que petit à petit les choses s'aménagent.
Allez, Gérard Leclerc, Alban Micosi, François Hernenwein, Virginie Leguet, vous restez avec nous. Dans 3 minutes, on va continuer à débattre, mais cette fois de la politique française, de la politique économique du président de la République, puisque 3 de ses proches collaborateurs dans la campagne pour l'Élysée, eh bien, lui ont fourni une note confidentielle qui s'est retrouvée dans le journal Le Monde de ce week-end. Restez avec nous tout de suite. La météo, l'info et les informations. Mais reviennent. On fait un point circulation au PC Mobilité de Radio France avec vous, Édouard Marguier. De grosses difficultés de circulation en ce dimanche soir.
Oui, dans le sud-ouest en particulier, sur l'A61 dans l'Aude en direction de Toulouse. D'abord près de Carcassonne avec 26 km de ralentissement. Puis toujours sur cette A61 en arrivant vers la Ville Rose, 5,5 km de bouchons. Les intempéries qui sont responsables d'un gros point noir en Ille-et-Vilaine sur la Nationale 157 entre Rennes et Laval. La route est inondée, cela crée 2 bouchons de 5 km dans les 2 sens de circulation. En direction du Mans et en direction de la capitale bretonne. Et en ce dimanche soir avec la pluie, c'est également compliqué en Ile-de-France avec des gros bouchons, par exemple sur l'A4 en direction de Paris. Ralentissement sur 5,5 km au niveau de Noisy-le-Grand.
France Info Météo avec Aramis Auto, le spécialiste de la vente de voitures sur Internet. 2000 modèles et 30 marques à découvrir sur aramisauto.com et dans les agences Aramis Auto.
On en profite alors pour faire un point météo avec vous, Jean-Michel Golinski, Météo France.
Des orages et de fortes précipitations associées pour la fin de la journée, la nuit prochaine et encore demain et mardi. D'ici là, l'ambiance va rester très instable et la carte de vigilance, fréquemment réactualisée, va jouer pleinement son rôle de moyen d'avertissement privilégié avec en orange les départements les plus exposés aux intempéries à venir. Ce soir et la nuit prochaine, la Corse et l'est de la vallée du Rhône vont conserver une ambiance calme, tandis que pratiquement aucune autre région ne sera à l'abri d'orages localement forts, notamment sur l'axe Midi-Pyrénées-Île-de-France. Et demain, si la Corse conserve de très bonnes conditions, sur le reste du pays, il faudra souvent composer avec un ciel menaçant, porteur d'orages, plus fort l'après-midi sur la Franche-Comté et de l'Alsace à Champagne-Ardennes, et souvent de fortes pluies en seconde partie de journée en montagne et du quart nord-ouest au bassin parisien.
Vous écoutez France Info, il est précisément 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
L'info, Fanny Bouvard.
D'importants retards ce soir, gare de Lyon à Paris. La circulation reprend doucement, mais elle a été interrompue pendant 1h30 à cause d'un problème d'alimentation électrique. Les trains affichent donc entre 1h et 2h de retard. Sur les routes, attention aux fortes pluies. On en parlait à l'instant. Météo France maintient 30 départements en vigilance orange pour des orages. De l'Aisne jusqu'au Tarn et l'Ille-et-Vilaine est également en alerte, mais pour des inondations. Conséquence en ce moment, la route nationale 157 est sous les eaux entre Laval et Rennes. En Moselle, on a passé la journée à nettoyer les dégâts d'hier et notamment à Saint-Avold, à côté de Metz. Une clinique a même dû être évacuée dans la soirée après des averses impressionnantes hier. Céline, une radiologue de l'établissement, est donc venue constater les dégâts aujourd'hui.
On est solidaires, quoi. C'est la solidarité par rapport à ce qui pourrait arriver chez n'importe qui ou n'importe où. Sauf que là, on est un peu dérouté parce que c'est dans un milieu public et puis qui est pas vieux, quoi. Et c'est là où on se pose des questions, quoi. C'est surtout ça, quoi, qui accueille du public. Toute la radiologie, elle est sous l'eau, quoi. Les matières, ça va plus marcher, quoi. C'est ça qui est... C'est triste. Mais bon, on va faire avec et puis on va prendre ce qu'on peut, récupérer ce qu'on peut sauver ce qu'on peut...
C'est des milliers d'euros de matériel, là.
Ah bah là, on parle de beaucoup, beaucoup de sous, oui. Ça, c'est clair.
Des tonnes de terre et des drapeaux de la FNSEA bloquent l'entrée d'un dépôt de carburant à Vatry dans la Marne. C'est le premier concerné par le mouvement des agriculteurs. Ils protestent en fait contre la concurrence de certains produits importés comme l'huile de palme. Et ils ont donc prévu de bloquer au total 13 sites dans toute la France d'ici demain matin. Donald Trump et Kim Jong-un ont bien atterri dans la journée à Singapour. Chacun de leur côté, le président des États-Unis et son homologue nord-coréen vont maintenant préparer leur rencontre prévue mardi pour évoquer la question du nucléaire. En Italie, le nouveau ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, refuse qu'un navire humanitaire transportant plus de 600 migrants recueillis en Méditerranée accoste dans un port du pays. Il demande donc à Malte de les accueillir, mais la Valette a refusé ce soir. Le bateau se dirige maintenant vers un port plus sûr, selon l'ONG SOS Méditerranée, sans donner exactement la destination. Raphaël Nadal en larmes ce soir à Roland-Garros. Des larmes de joie après avoir décroché son 11e titre porte d'Auteuil. Tout en puissance, l'Espagnol a battu en 3-7 l'Autrichien Dominic Thiem, 6-4, 6-3, 6-2. Il est bientôt 20h33 sur France Info et on retrouve tout de suite Pierre Neveu et ses informés. C'est la suite de l'émission.
Les informés, Pierre Neveu.
Et dans cette deuxième partie des informés, on va parler politique, mais aussi football avec Gérard Leclerc, éditorialiste à CNews et pour le site Oui Demain, avec Alban Micosi du service international de France 2, François Hernenwein du journal La Croix et Virginie Leguet de la rédaction politique de Paris Match. Alors, dans ces informés, on parle eh bien, de la politique économique d'Emmanuel Macron, mise en cause par trois économistes marcheurs qui avaient collaboré et établit son programme pour la conquête de l'Élysée. Une note confidentielle est publiée dans Le Monde de ce week-end. Alors il y a là Philippe Aguillon, Philippe Martin, Jean Pisani-Ferry qui évoquent les déséquilibres de la politique menée par le gouvernement, le manque d'un projet social. Le problème, c'est que cette note, est-ce qu'on peut le dire, Virginie Leguet, ne sert pas du tout Emmanuel Macron ?
Bah, peut-être que si, parce que quand on lit attentivement ce qu'il a écrit... c'est Emmanuel Macron qui a demandé à ces trois économistes de leur faire des propositions. Et il n'est pas exclu qu'elle ait fuité volontairement pour créer débat, ce que nous faisons ce soir.
Mais c'est quand même une note assez négative, parce qu'il pointe vraiment que ça penche d'un côté, ils le disent.
C'est parfaitement exact, et c'est d'ailleurs ce que pense une partie de l'électorat qui a voté pour Emmanuel
Macron. Donc il fallait le dire.
Une partie de l'électorat qui a voté pour Emmanuel Macron à la présidentielle, c'est ce que pense une partie des députés et c'est ce que pense aussi une partie des ministres. C'est ce que pense dans le fond une partie du peuple des marcheurs qui trouve que depuis un an, on a donné beaucoup plus de signaux à droite qu'à gauche et qui s'en inquiète. Donc le fait de mettre ça sur la table, c'est de dire « Ah, ben on a bien compris, on a bien entendu et d'ailleurs on fait une note et on va faire des propositions. » Il y a des pistes qui sont données. Toutes ces pistes ne seront pas retenues, mais certaines au moins vont créer le débat et certaines vont être appliquées, certainement.
Gérard Leclerc, c'est une nouvelle façon de communiquer. On met carrément, visiblement, la table...
Je ne veux pas trancher de savoir si tout ça
les défauts de cette première année.
Ce qui est sûr que la réalité, c'est que c'est vrai que c'est une politique qui pour l'instant penche à droite. Or, il y avait deux quand Macron était en campagne, c'était une politique et de droite et de gauche. On libère et on protège. Alors, il a fait effectivement toute la partie on libère. Ce qui était d'ailleurs peut-être cohérent économiquement, c'est-à-dire il faut commencer par le gros problème de la France, c'était l'emploi. On dit qu'il y avait toute une série de freins à l'emploi. On a libéré ces freins en supprimant, en réformant l'impôt sur la fortune, en mettant la taxation sur le capital à 20%, en créant l'exit tax, etc. Donc tout ça. D'accord. Simplement, le pendant qui est quand même du social, mieux protégé, c'est pas forcément d'ailleurs uniquement augmenter les prestations sociales. C'est d'une façon générale il y a d'autres façons de faire du social. Là, pour l'instant, ça reste effectivement l'enfant pauvre. Donc, le moment est peut-être venu de rééquilibrer cette politique.
Virginie Leguet, dans cette note, nos trois économistes marcheurs disent qu'il y a un manque de relais de la parole politique. Enfin, une parole politique qui n'est incarnée que par des personnalités de droite, Bruno Le Maire, le Premier ministre Édouard Philippe, Gérald Darmanin.
Disons que la parole politique au gouvernement... Et en tout cas, les deux ministres de Bercy sont des ministres qui viennent de droite. Et comme par hasard, ils ont pris des mesures qui ont beaucoup plu à droite. Aujourd'hui, il y a quasiment 50% des électeurs de LR qui soutiennent Emmanuel Macron contre seulement 25% d'électeurs de gauche. Ça dit quand même quelque chose du transvasement d'électorat qui s'est fait depuis un an. C'est un souci pour Emmanuel Macron parce que ça veut dire que en même temps ne marche pas. Il démarre objectivement un peu plus à gauche et au bout d'un an, il est un peu plus à droite. Mais il n'est pas et à gauche et à droite. S'il veut rétablir cette deuxième jambe, là, ce dont tout le monde parle, il va bien lui falloir la montrer par des signes concrets et pas rester que dans l'intention. Donc cette note, elle dit un point nommé pour montrer que oui, on va se saisir de la question.
François Lannenwein, je vous entends souvent le dimanche soir dire sur cette antenne, sur ce plateau, qu'il faut donner un signal à gauche, entre guillemets, et que le président dérige cette étiquette est trop présente depuis un an.
Merci de citer les bons auteurs, pour dire les choses clairement.
Vous êtes notre Bible, François.
Je crois qu'on a été nombreux à le dire. Mais je voudrais revenir aux auteurs de la note plus sérieusement. Les auteurs de la note ne sont pas dangereux gauchistes. Et si vous lisez cette note, vous rendrez compte que cette note est parfaitement équilibrée. Ce n'est pas un tract contre la politique d'Emmanuel Macron, c'est quelques indications pour conduire une politique intelligente pour le pays tel qu'il est aujourd'hui. Et incontestablement, là c'est sûr, cette politique a été déséquilibrée. Mais dans le temps d'un quinquennat, il ne serait pas absurde, mais je ne suis absolument pas certain que ça sera le cas, qu'Emmanuel Macron entende les trois auteurs auquel il a commandé cette note, et s'en servent pour réorienter sa politique. Parce que ma conviction ancienne, je la répète aujourd'hui, la politique d'Emmanuel Macron ne sera validée par les Français véritablement que si elle porte son double engagement et de droite et de gauche, un engagement d'équité. Et sur un certain nombre de mesures dans cette note, les auteurs de cette note ne défendent pas les positions de la France insoumise, ne s'inscrivent pas dans cette logique. Ils sont sociaux-libéraux, honnêtement. Mais ça me paraît vraiment intéressant que, à la demande du président, cette note soit mise au débat et ça permettra aux Français d'évaluer, à partir des bons conseils qui lui sont donnés, la capacité d'Emmanuel Macron de faire autre chose que ce qu'il a fait pendant la première année de son mandat.
Gérard Leclerc, dans cette note, il y a certaines propositions. Est-ce que ça peut correspondre aux attentes des électeurs, aux attentes des Français en général ?
Oui, enfin, il y a déjà,
c'est
par exemple,
technique quand même.
Il y a une mesure qui est actuellement mise en cause, qui est la prime d'activité. Et là, il prête la défense de la prime d'activité. C'est pas innocent, parce que oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, puisque ça incite les gens à revenir vers l'emploi, et ça donne aux gens qui ont des revenus, des salaires très faibles, un petit supplément qui leur permet de vivre mieux. Donc c'est vraiment une mesure importante. Et là, quand même, où il y a un petit souci, me semble-t-il, avec l'idée qu'elle a été volontairement rendue publique, c'est qu'elle arrive le jour où on apprend que où depuis quelques jours circulent un certain nombre de propositions faites par le comité d'action 2022, donc pour faire des économies. Et parmi ces économies, il y en a pas mal qui sont suggérées sur des mesures sociales. Donc là, il y a quand même une vraie contradiction.
Mais
on
ne
peut pas faire l'un et l'autre. Et là, c'est intéressant.
Mais en même temps, des économies des propositions sociales.
Là, pour le coup, c'est pas facile.
Mais dans ce qui est proposé, il y a des mesures qui sont susceptibles de faire des économies aussi. Par exemple, ils disent qu'il faut revenir sur la suppression totale de la taxe d'habitation, les 20%. Ouais. Donc, ça, c'est des économies si c'est appliqué.
On va continuer à en débattre dans un instant avec vous quatre sur le plateau des informés. Avant cela, 20h40, l'essentiel de l'info, Léo Téchère.
La République En Marche minimise les révélations de France Info sur les ristournes faites au candidat Macron. En politique, c'est un argument qui revient souvent. Le travail d'investigation des journalistes n'est pas sérieux, dit ce soir le parti présidentiel. L'ONG Anticor a, elle, aujourd'hui qualifiée de malsaine l'augmentation accordée par l'exécutif au président de la commission des comptes de campagne. Un dépôt de carburant bloqué ce soir dans la Marne à Vatry, premier site visé par les agriculteurs qui préparent le même genre d'action dans 13 autres dépôts ou raffineries. Leur syndicat de la FNSEA dénonce la concurrence de produits importés comme l'huile de palme utilisée dans la fabrication de biocarburants. Donald Trump a claqué la porte du G7 pour ne pas montrer de faiblesse. C'est un de ses conseillers qui le dit. Le président américain aurait mal vécu les déclarations du Canada sur les taxes américaines à la fin du sommet international. Donald Trump a donc décidé de montrer les muscles à deux jours de sa rencontre avec Kim Jong-un. Ils ne veulent pas du rappeur Medine en concert au Bataclan. Des élus de droite et d'extrême droite, dont Laurent Wauquiez, protestent contre une de ses chansons qui prône la crucifixion des laïcars. Le rappeur dit que c'est une caricature. Il a par ailleurs écrit depuis « Fais gaffe à toi », une critique du fanatisme religieux. Et puis une gourde à plus de 4 millions d'euros, pas n'importe laquelle, une gourde en porcelaine qui aurait appartenu à un empereur chinois du XVIIIe siècle. Elle a été vendue aujourd'hui aux enchères au château d'Artigny, près de Tours.
France Info. Les informés, Pierre Neveu.
Et dans ces informés de France Info, on continue à parler de ces propositions des économistes Philippe Aguillon, Philippe Martin, Jean Pisani-Ferry. Il y a quelques jours, sur l'antenne de France Inter, au micro de Nicolas Demorand, eh bien, l'un des trois, Philippe Aguillon, définissait déjà le modèle français. On l'écoute.
L'idée pour moi du programme de Macron, c'était je libère l'économie pour qu'on innove davantage et qu'on entre vraiment dans le 21e siècle, mais en même temps, plus de mobilité sociale. Alors c'est vrai que les mesures en matière d'éducation vont dans le sens de plus de mobilité sociale, mais en même temps, je vais généraliser la protection sociale. C'est pour ça que tout ce qu'il annonçait sur l'assurance chômage généralisée, tout ça doit se faire. Il faut ce triangle, libérer l'économie pour innover plus, beaucoup plus de mobilité sociale par la formation, par l'éducation, etc. Et davantage de protection sociale. Et si on n'a pas l'élément protection sociale, si on fait du Thatcher, on obtient le Brexit. Si on fait du Reagan, on obtient Trump. Et il ne faut pas faire la même chose chez nous.
Voilà, Philippe Aguillon qui fait référence au modèle scandinave, la flexi-sécurité, Alban Mikosi.
Oui, la flexi-sécurité. Après, c'est un exemple qu'on cite en France régulièrement, en oubliant que le Danemark, la Suède, qui le pratiquent depuis longtemps, sont des pays de petite taille et avec des sommes, finalement, qui sont infiniment pas comparables avec les nôtres. Alors, moi, j'observe qu'aujourd'hui...
Et avec une dette qui n'est pas la même, peut-être,
et aussi. Avec une dette qui n'est pas la même, et une situation économique qui n'est pas la même. Pour autant, moi, j'observe qu'aujourd'hui, Agnès Buzyn, sur ce débat, a donné l'impression dans le journal du dimanche, en disant, attendez, on va effectivement, on n'a pas dit qu'on allait retirer toutes ces sommes, on va voir, enfin... Clairement, je ne sais pas moi si c'est une fuite orchestrée pour vous répondre, Virginie, j'en ai pas la moindre idée. Mais
non plus, j'ai juste que ça pouvait être tactique. Voilà, je n'ai pas dit que je savais que c'était une fuite orchestrée.
Ce qui est certain, c'est que le gouvernement est dans un moment sensible et je répète toujours la même chose, sensible aussi parce que en janvier arrive cette réforme qui est fondamentale, qui est le prélèvement à la source des impôts, qui va générer un effet immédiat, c'est que chacun va s'apercevoir sur sa feuille de paie qu'il perd quelques centaines, quelquefois quelques milliers d'euros par mois. Et oui, quelques centaines d'euros par mois à minima, et oui, dans certains cas, plus d'un millier d'euros par mois de salaire. Ça va être un moment économique où il va falloir beaucoup de pédagogie au pouvoir en place pour pouvoir expliquer, oui, mais regardez, on continue à faire des gestes pour les gens.
Gérard Leclerc, il y a aussi un geste dans cette note qui est fait en direction de la CFDT sur les représentants salariés dans les conseils d'administration.
Oui, parce que la réforme du Code du travail a quand même eu comme conséquence qu'il y a moins de représentation des salariés puisqu'on les regroupe. Et donc, il tire de ce point de vue-là un peu la sonnette d'alarme en disant il faut d'une façon ou d'une autre que les salariés participent à la vie de l'entreprise.
Est-ce que ça veut dire qu'on tend clairement la main à la CFDT, là ?
Oui, mais ça ne m'étonne pas de la part de ceux qui, des trois économistes dont vous parlez, qui sont effectivement souvent proches des thèses de la CFDT. Et je crois qu'ils, notamment, ils disent que ils insistent sur la représentation des salariés dans les conseils d'administration. Ça fait partie, c'est une demande ancienne de la CFDT. Non, ce qui me paraît intéressant dans le débat sur le social, c'est est-ce que le gouvernement va arriver à faire passer le message qu'évoquait tout à l'heure Aguillon, c'est-à-dire que le social, c'est certes des aides sociales et c'est important, la protection sociale est importante, mais c'est au-delà, c'est aussi aider à la mobilité des salariés et surtout à ce qu'ils puissent saisir des opportunités. Et donc ça passe par la formation, ça passe par l'éducation. De ce point de vue-là, quand même, la mesure de Blanquer de 12 élèves par classe dans les quartiers en difficulté, c'est intéressant.
Et les contrats de travail ne seront plus les mêmes.
Voilà, et ça, il y a une vraie, je crois, demande des Français à plus d'autonomie. C'est quelque chose qui est important. Mais encore faut-il qu'on puisse effectivement donner aux salariés, et, enfin à l'ensemble des Français, cette capacité de pouvoir
évoluer, faire des différents métiers, etc.
François,
le social, c'est pas seulement des.
Est-ce que ce n'est pas dangereux pour les ministres comme pour les parlementaires d'apprendre par la presse, par Le Monde, par le Journal du Dimanche aujourd'hui, eh bien toutes ces orientations sociales du gouvernement, enfin, du chef de l'État.
Cher Pierre, vous découvrez pas qu'en marche.
C'est très vieux monde, hein.
Je fais de découvrir.
C'est assez vertical. C'est une conception de la politique où il y a un chef et. Un certain nombre de gens chargés d'exécuter la partition composée au sommet. Donc il n'y a pas lieu de s'étonner. Sur le fond, je pense que là, c'est l'occasion d'avoir un débat formidable sur la politique qui a été conduite et celle à venir, sur les rééquilibrages nécessaires. Parce que franchement, pour Emmanuel Macron, c'était sans doute pas son intention de finir au bout d'un an de son mandat avec collé à ses basques, l'image de président des riches. Sa vision lors de la... Oui, sa vision lors de la campagne présidentielle était plus complexe, plus nourrie, plus élaborée que les propositions auxquelles il est arrivé au terme d'un an de mandat. Donc cette piqûre de rappel de trois économistes patentés servira peut-être à nourrir sa réflexion, à faire les rééquilibrages nécessaires s'il veut que les choses se passent bien pour lui et pour la France, parce que personne ne souhaite aujourd'hui le chaos ou les troubles sociaux.
Allez, on va ouvrir une page football dans ces informés. Pas de quiz sur les équipes, sur les footballeurs, pas de pronostics. On va évoquer en revanche les enjeux politiques des compétitions sportives. Il y a eu les Jeux Olympiques à Sotchi, il y a la Coupe du Monde qui va démarrer cette semaine en Russie, et puis dans 4 ans, ce sera le Qatar. Est-ce que l'organisation de tous ces événements de sport, c'est pas fait tout simplement pour nourrir le nationalisme, Alban Micosi?
Si, ça a souvent été un reproche, même si c'est pas du tout l'esprit de Coubertin, parce que l'esprit de Coubertin, c'était celui de l'amitié des peuples où on devait avant tout se battre soi-même. Parce que la phrase plus haut, plus fort, plus loin, c'est d'aller chacun plus haut, plus fort et plus loin.
Se dépasser
soi-même avant de dépasser l'autre.
Mais
oui,
mais
est-ce que ça va être
politique?
Est-ce que la Coupe du Monde va être l'exaltation des nationalismes? Bien sûr, à commencer par celui de la Russie qui l'organise. Je regardais avec intérêt le budget du comité d'organisation. Donc 7 milliards d'euros, le budget du comité d'organisation, 30 milliards d'euros au total de travaux. Oui, évidemment, la Russie va vouloir montrer qu'elle est un pays moderne, qu'elle est un pays avec des infrastructures incroyables, avec des stades prodigieux, bâtis sur la corruption, bâtis au détriment, effectivement, du reste de l'économie, parce que la Russie, c'est un pays qui marche à deux vitesses. Mais alors, j'ai posé la question au numéro 2 de l'ambassade à Paris, en lui disant, quand même, c'est le plus gros budget de l'histoire des Coupes du Monde de football, est-ce qu'il fallait dépenser autant d'argent? Et il m'a fait cette réponse que je trouve formidable. Il m'a répondu, on fait ce qu'on veut de notre argent.
Parce qu'on rappelle que vous avez été correspondant à Moscou pour France Télévisions, donc vous connaissez bien l'état d'esprit, le pays.
La Russie considère qu'elle est riche et que la réussite de cette Coupe du Monde, eh bien, va permettre de faire aussi de la diplomatie, de montrer que la Russie est un pays qui réussit.
Vladimir Poutine n'avait peut-être pas besoin de cet événement pour sa popularité. Il a été réélu avec 76% des voix.
Sa popularité en interne, non, mais c'est un message au monde. Regardez, il y a une logique. On a organisé les Jeux Olympiques à Sotchi. On a organisé un Grand Prix de Formule 1 en Russie. C'est une manière pour la Russie d'être présente dans des grandes manifestations internationales. Maintenant, la Coupe du Monde de football. Et ne nous faisons aucune illusion. Ça va très bien se passer. Il n'y aura pas de bagarre dans les rues.
Pas de hooligans?
Mais bien sûr que non. Les hooligans, les 3000 hooligans russes, ils sont non seulement parfaitement fichés, ils vont être invités à rester chez eux, mais avec des lettres de menace individuelles qui sont déjà arrivées. Et je peux vous dire que celui qui sort et qui fait le coup de poing avec un étranger, non seulement il est condamné, mais en plus il perd son emploi derrière. Donc personne ne va jouer à ça.
Parce qu'on rappelle que les hooligans étaient venus lors de l'Euro 2016
en France.
Oui, mais en France,
bien sûr, pour aller casser des... Pour aller se battre avec les Anglais à Paris, à Marseille, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, pour mettre le chaos dans les rues de Moscou, ça c'est exclu.
On va continuer à débattre de sport et de politique dans ces informés. Mais avant cela, à 20h50, l'essentiel de l'info, Léo Téchère.
Les inondations et fortes pluies provoquent des perturbations sur la route. Ce soir en Ille-et-Vilaine, des dégradations relevées sur la nationale 157 entre Laval et Rennes. Attention aux orages. Ailleurs en France, 30 départements en vigilance orange de la Picardie jusqu'aux Pyrénées. La France refoule les gens à la frontière. L'Espagne défend ses frontières avec des armes. À partir d'aujourd'hui, l'Italie dit aussi non à l'immigration clandestine. Déclaration du nouveau ministre de l'Intérieur italien ce soir. 600 migrants empêchés de débarquer en Italie aujourd'hui. Le ministre Matteo Salvini a refusé l'accostage d'un navire humanitaire qui leur avait porté secours en Méditerranée. La non-diplomatie par Twitter, stupeur en Europe et au Canada. Donald Trump s'est retiré de l'accord du G7 trouvé quelques heures auparavant. La ministre allemande des Affaires étrangères déplore cette capacité à détruire la confiance par un simple tweet. Soyons sérieux et dignes de nos peuples, déclare de son côté la présidence française. Loin d'être un dirigeant du groupe État islamique, ce serait même tout le contraire. L'avocat d'un réfugié irakien arrêté et mis en examen en mars dernier en France rejette les soupçons qui pèsent sur son client. Il était du côté du gouvernement irakien, dit-il dans un communiqué, très actif dans la lutte contre Daesh. Et puis la gendarmerie du futur, le ministère de l'Intérieur révèle aujourd'hui que 5 drones ont été utilisés en mai dernier à Notre-Dame-des-Landes. Des caméras volantes, bien utiles pour suivre les mouvements des zadistes. La gendarmerie qui a en plus réussi à immobiliser un drone du camp adverse, une première en France.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Quand sport et politique font bon ménage, Jeux Olympiques, Coupe du Monde de football, François Hernenwein, tous les dirigeants de ce monde, qu'ils soient dictateurs ou chefs d'État élus, ont toujours profité des événements sportifs pour faire parler d'eux d'une façon ou d'une autre. On peut prendre l'exemple de Mussolini et d'Hitler pour Mussolini pour la Coupe du Monde de football, Hitler pour les Jeux Olympiques de 1936. Et puis, on se souvient également de la hausse de popularité de Jacques Chirac après la Coupe du Monde 98, plus
oui,
7 points dans les sondages.
Mais je pense qu'on peut, si on fait la comparaison entre les régimes autoritaires et les grandes démocraties, les Jeux Olympiques sont d'un usage différent selon les hypothèses. Alban rappelait tout à l'heure les sommes englouties dans la Coupe du Monde, et on peut revenir, toujours sous Poutine régnant, sur l'expérience des Jeux de Sochi. Sochi en Crimée, c'est ça ?
Non, Sochi est dans le sud de la Russie, mais pas en Crimée.
Bon, 36 milliards, je crois, pour les Jeux de Sochi, de la corruption évoquée tout à l'heure, etc. On voit bien, et sans commune mesure, avec les sommes investies dans les démocraties en général, pour les Jeux Olympiques. On voit bien que là, il y a une couche supplémentaire mise au nom du nationalisme, de la grandeur du pays, etc., ce qui rend les choses assez différentes, les récupérations sensiblement différentes aussi. Je pense que Vladimir Poutine conduit sa politique sportive comme il conduit sa politique étrangère, avec une volonté de marquer des points, d'avancer, de gagner des positions, etc. C'est assez logique avec le régime qu'il incarne, mais je pense pas qu'on puisse faire de cet événement un exemple de bonne santé autour des activités sportives.
Non, mais ils vont montrer leur capacité d'organisation, ça n'ayez pas de doute dessus, et ils montreront à la Russie, au peuple russe, mais également en international, que c'est un pays moderne.
Gérard Leclerc, Emmanuel Macron utilise aussi cette Coupe du Monde à des fins politiques. Il est allé à Clairefontaine porter un message, il a dit « Le pays a confiance en vous et nous comptons sur vous pour donner confiance au pays ». Message politique.
C'est de bonne guerre que tous les chefs d'État ou de gouvernement s'intéressent à leur équipe de foot ou d'une façon générale à des grandes épreuves sportives. Mais sincèrement, on ne peut pas faire de comparaison entre effectivement un pays comme la Russie, enfin des pays qui sont totalitaires et qui organisent des Jeux Olympiques, et puis d'autres pays qui en organisent aussi, comme l'Australie. Je ne suis pas sûr que les Jeux de Sydney en 2000 aient déclenché une vague de nationalisme en Australie. Hein. Bon, c'est quand même pas la même chose. Cela dit, c'est dangereux, y compris pour les États autoritaires ou totalitaires, d'organiser ce genre de Jeux. Rappelez-vous de Hitler en 1936 avec Jesse Owens qui gagne le 100 mètres. C'était pas du tout le scénario qui était prévu. Et là, il n'est pas non plus impossible que l'équipe de Russie de football n'aille pas très loin. J'en sais rien, mais d'après ce qu'on dit, c'est loin d'être une des grandes équipes du moment. Donc c'est un peu dangereux, parce que si ça ne marche pas, c'est décevant. Le bel exemple, ça avait été la France en 98, où effectivement on organise, on gagne, ça a donné un petit moment, un petit peu d'euphorie à ce pays. Bon, ensuite, ça ne dure pas non plus extrêmement longtemps.
Hein. Virginie Le Guay, ce midi sur France 3, François Hollande, ancien président de la République, qui aime le football, qui a joué au football, déclarait « On ne peut pas utiliser le football à des fins politiques. » Vraiment ?
Mais c'est à lui de découvrir la réelle politique. Il me paraît bien innocent, François Hollande, tout d'un coup, quand ça l'arrange. Mais pour Vladimir Poutine, ça ne sera pas du tout un enjeu sportif, mais un enjeu politique. Il considère que ça va servir à installer l'image d'un pays fort, rayonnant, puissant. C'est ce qu'on appelle la politique du soft power, mais c'est exactement ça. Il va dépenser des sommes folles, et quand vous parliez du budget, il va être dépassé largement, puisque si j'ai bien compris...
Oui, c'est chez du budget officiel. Hein,
oui, déjà la simple rénovation du stade de Saint-Pétersbourg est passé de 7 milliards de roubles à 40 millions de roubles.
Mais on a mis 10 ans à le construire.
Et puis on va faire une route circulaire autour de Moscou, on va faire une circulation TGV. Enfin, ça va être somptueux, mais ça va installer l'image d'un pays qui est extrêmement puissant, extrêmement bien outillé, dont les infrastructures seront impeccables. Et ça va servir à installer l'image de grandeur que Vladimir Poutine veut installer. Il vient d'être élu pour un quatrième mandat. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, lors du premier match, le match d'ouverture, il va se retrouver aux côtés de l'Arabie Saoudite, ce qui l'arrange aussi tout à fait. Donc, pour l'instant, ça se déroule.
Outil, ça sera un outil diplomatique aussi de soft power.
Exactement. Donc, ça se déroule exactement comme il imaginait.
Comme on arrive dans la dernière minute de ces informés, François Ehrenwein, je vous donne la parole. La une de la Croix demain.
Elle est assez logiquement consacrée au sommet qui va occuper le monde dans les jours qui viennent en Corée. Enfin, à Singapour, propos de la Corée.
Je remercie Virginie Le Guay, Paris
Alors,
Match.
Alors, je suis obligée de dire, comme tous les dimanches, non, que Paris Match sort jeudi prochain et que donc la une sera décidée demain, mais que la une de cette semaine, c'est Brigitte Macron.
Voilà. Alban Micosi, on vous retrouve sur France Télévisions, service Absolument. International. Gérard Leclerc. Oui, demain, CNews.
Oui, y a un point commun entre les deux, parce que demain, je reçois Pascal Canfin et qui va parler des plastiques dans la mer, et je fais un dossier dans Oui, demain, sur les plastiques dans la mer. Donc, vous voyez,
et demain, les informés, vous retrouverez Jean-Mathieu Pernemin. Le rendez-vous politique de demain matin, 8h30, sur France Info, radio, télévision, Toussaint à Paty. Ce sera le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Bonne soirée sur France Info, tout de suite, la météo et l'info.